Apocalypse 3, relirons à partir du verset 7. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Philadelphie, écrit : Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, car tu as peu de force. Et tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. Voici, je donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent être juifs, et ils ne le sont pas, mais ils mentent. Voici, je les ferai venir et se prosterner devant tes pieds, et ils connaîtront que moi, je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je le ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il ne sortira plus jamais dehors. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Laodicée écrit : Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu fusses ou froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et que tu ne connais pas que toi, tu es le malheureux et le misérable, et pauvre et aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or passé au feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées.
Étions donc arrivés ce matin jusqu'au verset 8. Nous étions arrêtés longuement sur le caractère de Philadelphie consistant à garder la parole. L'insistance de l'Esprit de Dieu sur ce fait de la place qu'a tenue la parole pour les fidèles de Philadelphie, et qu'elle doit tenir pour nous aussi. Nous rappelons que nous considérons essentiellement l'aspect moral, l'application à nos consciences et à nos cœurs de ces passages. Nous renvoyons aux écrits qui abondent sur ce sujet quand il s'agit de considérer d'autres aspects. Mais l'aspect moral nous invite à considérer la richesse de notre patrimoine spirituel. Et nous avons énuméré quelques-unes des vérités qui constituent justement ce patrimoine. Tout ce qui a été mis en évidence au temps du réveil, parmi ceux que nous appelons nos devanciers. Et ces conducteurs fidèles qui sont penchés sur la parole, pour qui elle a pris une valeur incomparable, ont trouvé là des lumières qui avaient été cachées jusqu'à ce temps et qui ont soudain jeté des flots de lumière sur les portions de la parole qui restaient encore dans l'ombre. Parmi ces vérités, nous ne faisons qu'énumérer, rappeler rapidement le retour du Seigneur avec tout ce qui se lie à son retour et en particulier le côté prophétique. Nous reviendrons d'ailleurs à propos de la promesse « Je viens bientôt » sur ce côté-là. « Je viens bientôt », la promesse du Seigneur Jésus. son retour imminent. Et lié à cela, le déroulement de la prophétie en situant les différentes portions de la parole qui nous aident à bien comprendre à quoi s'applique chaque portion du Saint-Livre. Ne pas faire de méprise sur tel passage mal appliqué. Voilà l'importance aussi de comprendre la parole dans son ensemble. La parole s'explique par la parole, un passage s'explique par le contexte. Et si nous avons, bien sûr, nous sommes portés peut-être à considérer des portions qui nous font plus de bien, il est important, nous rappelons cela aux jeunes en particulier, chercher à avoir une vue d'ensemble d'un livre tout entier, d'une portion de la parole de Dieu. À propos du retour du Seigneur, on a attiré notre attention sur le fait que il y a son retour pour chercher son Église et puis son apparition qui ne concerne pas directement l'Église, c'est-à-dire que ce n'est pas l'attente immédiate du croyant qui va voir le Seigneur paraître sur la nuée. Cela est généralement compris et reçu et désiré. Mais il est parlé de ceux qui aiment son apparition. Et cela, c'est le moment où le Seigneur reviendra pour ce monde. Et cela aussi doit nous être précieux parce que cela concerne sa gloire. Si nous aimons le Seigneur, nous désirerons aussi ce moment où il sera enfin reconnu comme celui qui vient pour prendre son règne glorieux sur ce monde, lui qui a été le rejeté, le méprisé. Ça fait partie de la prophétie et des secrets que le croyant chérit parce qu'il concerne son Sauveur. Nous avons aussi rappelé l'importance d'être au clair sur les deux natures, sur le fait que nous avons reçu la vie divine et que cette vie doit porter des fruits dans le croyant qui a encore l'ancienne nature, la ruine de l'homme, la vocation céleste de l'Église, la séparation du monde et du mal, et le caractère d'étranger du croyant, justement, dont la vocation est céleste. Et puis il y a tout ce qui se rattache aux vérités concernant l'Église. L'Église qui, comme ensemble, a manqué, c'est justement ce que nous trouvons dans ces deux chapitres de l'Apocalypse. C'est un déclin presque continuel, avec quelques moments forts, quelques réveils comme celui de Philadelphie, mais dans l'ensemble, il y a là une masse professante au milieu de laquelle le Seigneur s'est réservé des fidèles, des croyants qui aiment son nom, qui gardent sa parole, qui ont de l'attachement pour sa personne. Et cela nous permet aussi de comprendre, n'est-ce pas, ces vérités qui se lient à la position de séparation, qui n'est pas certes facile à tenir, mais qui est précieuse parce que on trouve le Seigneur en dehors du camp religieux. Et il y a cette vérité de l'unité du corps de Christ qui a aussi été remise en évidence par ses conducteurs qui nous ont enseigné. Alors nous ne tenons pas cette position avec un sentiment de supériorité. Nous réalisons bien que nous risquons tellement d'être aussi des professants de ceux qui connaissent et puis qui se glorifient de quelque chose qui, en fait, ne correspond pas à l'état moral dans lequel nous devons être. Et on a attiré notre attention sur le chapitre 18 de Matthieu, dans lequel nous avons tous ces caractères moraux qui accompagnent la présence du Seigneur au milieu des siens. Le côté de l'humilité, de la douceur, le pardon. Chacun de nous a pu profiter de ce qui nous a été dit dans ce sens, nous rappelle quel caractère le croyant doit revêtir s'il veut vraiment jouir de la présence du Seigneur. Alors nous arrivons au verset 9 et nous apprenons quelque chose là, c'est que Satan, qui est mentionné, a une synagogue. Ça nous a déjà été mentionné au chapitre 2 au verset 9 à propos de Smyrne. Satan, une synagogue. Synagogue, c'est un endroit religieux. Eh bien oui, chose étonnante, Satan contrefait ce que fait Dieu, imite, n'est jamais plus à son affaire que quand il peut donner une apparence religieuse, il peut se constituer sa religion qui est celle de l'homme, qui est celle dans laquelle le monde a sa place, la synagogue de Satan. Mais si nous regardons avec soin, aussi bien au chapitre 2, à propos de Smyrne, et nous relevons qu'il fait mention de la synagogue de Satan dans les deux seules églises auxquelles il n'est pas fait de reproche, c'est-à-dire à Smyrne et à Philadelphie. Et c'est là ce qui excite la fureur de l'ennemi. Et comment va-t-il réagir? Par une synagogue, par quelque chose qui a une apparence religieuse. Alors, au chapitre 2 et au verset 9, il est question de des outrages. Les outrages de ceux qui se disent être juifs. On voit la haine qui se donne sous la forme d'outrage. Et ici, dans notre passage, alors il est fait mention de cette synagogue de Satan, de ceux qui se disent être juifs. Ils ne le sont pas, mais ils mentent. Et le Seigneur dit, je les ferai venir. Je leur ferai connaître que moi, je t'ai aimé. Et c'est bien précieux pour le cœur du croyant qui se trouve persécuté ou qui se trouve dans cet ensemble religieux dans lequel il se dit mais nous sommes presque seuls et jusqu'où est-ce que cela ira? Eh bien l'approbation du Seigneur est là et le témoignage de son amour que nous avons dans le secret de nos cœurs, l'approbation du Seigneur Jésus. Et le moment viendra où il sera connu que le Seigneur avait ses regards, son regard d'amour sur ses croyants. Dans le chapitre 17 de l'évangile de Jean, dans la prière du Seigneur, il est fait mention au verset 23, de ce moment où le monde connaîtra, où le monde saura, ce sera trop tard alors pour croire. Le monde saura de quel côté étaient les affections du Seigneur. Verset 23 de Jean 17, « Afin qu'il soit consommé en un, et que le monde connaisse que toi, tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé, Père. » On voit par là que le tendre amour du Seigneur repose sur les siens, c'est quelque chose que le monde ignore, que le croyant connaît bien et qui le console, qui le soutient au milieu des outrages qu'il peut connaître de la part de ceux qui font partie de cette synagogue de Satan.
Trois manifestations de la grâce du Seigneur à l'égard de cette Église dont on a rappelé qu'elle était sans force, dont on a rappelé qu'elle ne cherchait pas le devant de la scène, dont on a rappelé qu'elle ne se mettait pas en avant. Trois manifestations de la grâce. Elle n'a pas de force. Une première réponse. Le Seigneur ouvre les portes. On a bien dit que ouvrir une porte ne nécessite pas une dépense musculaire extraordinaire. C'est quelque chose de très facile, apparemment. En général, c'est conçu ainsi. Eh bien, le Seigneur ouvre cette porte que l'Église n'est pas capable d'ouvrir et personne ne peut la refermer. Première manifestation de la grâce. Deuxième manifestation de la grâce, elle est méprisée de ceux qui sont de la profession chrétienne, de ceux qui sont des professionnels du christianisme. Que n'a-t-on dit? Que n'a-t-on dit? Cela nous a été rapporté, n'est-ce pas? Que n'a-t-on prédit de ceux qui sortant des milieux religieux, il y a maintenant 150 ans, de tous ceux qui sont sortis des milieux religieux, comptant sur la grâce du Seigneur, que n'a-t-on dit? Mais sans organisation, mais vous ne ferez rien, mais vous n'avez pas de personnes qui ont suivi des écoles religieuses, mais vous n'aboutirez à rien, ça durera un feu de paille, que n'a-t-on dit? Eh bien, la réponse du Seigneur est là, puissante. Tous connaîtront que moi je t'ai aimé. Car la synagogue de Satan et ceux qui se disent être juifs, c'est un langage symbolique auquel nous sommes habitués, ce sont des professants. Ce sont des personnes qui n'ont pas la vie, qui ont que la profession de la vie. Rappelons que nous sommes tous professants. Nous sommes aussi professants. Mais la différence, c'est que nous avons, du moins, nous pouvons le souhaiter vivement pour tous ceux qui sont dans cette salle, nous avons la vie de Dieu, et nous faisons profession de cette vie, mais avec une réalité intérieure. Et c'est cela que le Seigneur apprécie. Donc, deuxième bénédiction extraordinaire. Vous avez été des méprisés, des petites gens. Les termes ont été employés, des petites gens. Des gens qu'on méprise et qu'on mésestime. Eh bien, tout le monde saura que moi je t'ai aimé. Le Seigneur sera admiré dans ceux qui l'auront cru. Cela nous fait penser à ce passage, même s'il est de portée plus générale. Et troisième bénédiction, je te garderai de l'heure de l'épreuve. Combien les croyants qui ont vécu dans des heures tourmentées, et il ne faut pas remonter à beaucoup d'années pour les imaginer, ces heures tourmentées pendant ces guerres, ont pu avoir des interrogations. Quelle certitude de savoir que ce n'était pas l'heure de l'épreuve, que l'Église, que les croyants allaient être enlevés par le Seigneur avant l'heure de l'épreuve, l'heure de l'épreuve finale, l'heure de l'épreuve qui allait venir sur la terre habitée tout entière, pour reprendre l'expression du verset 10e. Eh bien voilà cette troisième manifestation de la grâce de Christ. Et quand nous voyons certains événements dans le monde actuel, et il suffit d'ouvrir le journal, n'est-ce pas, ou de circuler dans les rues pour s'apercevoir d'événements qui peuvent nous surprendre. Des événements au Moyen-Orient, par exemple, cela peut nous surprendre. Gardons bien présent à notre esprit et dans nos cœurs ce fait que nous serons gardés de l'heure de l'épreuve, même si, comme cela a été dit et nous le rappelons, nous pouvons en avoir les premières éclaboussures. Même si nous pouvons assister aux premiers éléments de mise en place des acteurs de la scène prophétique finale. Mais de toute façon, nous serons gardés de l'heure de l'épreuve. L'heure de l'épreuve n'est pas simplement la grande tribulation. Dans ce passage-là, tel que nous pouvons le penser d'après ce que la parole, les éléments que la parole donne, c'est plus général encore, c'est-à-dire cela touche tout ce qui se passera pendant la période qui suivra l'enlèvement de l'Église.
Le mépris est une arme très redoutable entre les mains de Satan. Et pour pouvoir tenir ferme dans de telles circonstances, eh bien, il faut vraiment jouir de l'amour du Seigneur. Être occupé de cet amour. Tous ceux qui ont été persécutés ont eu cette grâce, si nous observons ce qui s'est passé, pour supporter ce mépris, et qui a été plus méprisé que le Seigneur, délaissé, lui qui n'avait fait que le bien. Si même tous les témoins devaient disparaître sur la terre, tel est véritable, celui qui tient bon, qui tient ferme. Et nous avons une illustration de cette pensée aussi dans l'attitude que Jean se plaisait à réaliser. Il s'appelle à la fin de son évangile, à 5 reprises, le disciple que Jésus aimait. Au moment où on allait le condamner, le trahir, l'abandonner, lui-même aussi sans doute s'est tenu à distance, mais il était là pour entendre une parole à son adresse, aussi bien qu'à l'adresse de la mère du Seigneur. Eh bien, cette attitude, chaque racheté qui a une relation vivante avec le Seigneur peut l'occuper. Dans les circonstances les plus tragiques, nous assistons à un naufrage aujourd'hui. Eh bien, occupons cette place sur le sein de Jésus. Jouissons de son amour. Et cet amour étant le vrai motif de tout ce que nous pourrons manifester, nous permettra de vaincre. Car il y a aussi des vainqueurs à Philadelphie. Et c'est cela que le Seigneur encourage. Sans doute, on voit une extrême cohérence dans l'ensemble de cette assemblée. Et comme nous ne la voyons pas ailleurs, où le Seigneur est obligé, dans les 4 dernières, de distinguer un résidu du reste de ceux qui pourtant sont sortis, mais certains sont plus fidèles que d'autres, nous le savons bien. Et c'est cela que le Seigneur honore, parce qu'ils ont besoin d'être encouragés pour tenir ferme. Et c'est sans doute une preuve de leur amour pour le Seigneur que d'aimer leurs frères dans la vérité. et d'être devant Dieu en intercesseur pour le bien du peuple de Dieu. Nous les voyons tous les intercesseurs comme Moïse qui se tient à la brèche. Il est tout seul, mais il est du côté de Dieu. Il apporte le peuple à Dieu et que de fois Dieu lui a répondu. Il faut dire qu'il avait l'intelligence des pensées de Dieu, il se tenait près de Dieu, il parlait à Dieu comme un intime ami. De même Abraham aussi, dans les circonstances difficiles, l'ami de Dieu, celui à qui Dieu pouvait confier ses secrets. Eh bien, de tels hommes, de telles femmes, lorsque Dieu en suscite au sein du peuple de Dieu, sont extrêmement utiles. Les Philadelphiens avaient cette qualité-là, de jouir de l'amour du Seigneur. Et alors, cet amour, emplissant leur cœur, ils pouvaient affronter le mépris qu'ils rencontraient de la part de ceux qui revendiquaient, disons, la position religieuse officielle, héréditaire. Ce qui permet à l'homme naturel de se glorifier, comme nous le voyons à la fin des Galates, au chapitre 6, il y a une expression tout à fait remarquable, il est dit au verset 12, « Tous ceux qui veulent avoir une belle apparence dans la chair, cela vous contraignent à être circoncis, seulement afin qu'ils ne soient pas persécutés à cause de la croix de Christ. » Nous revenons toujours à la croix, et quelqu'un disait, « Dans les conseils de Dieu, la croix et la gloire se touchent. » La jouissance de l'amour du Seigneur dans le secret de notre cœur nous permet d'être des vainqueurs et de tenir ferme malgré toute l'opposition que nous pouvons rencontrer. Tu as gardé la parole de ma patience. Encore une très belle expression, distincte du fait que Philadelphie a gardé la parole, comme nous l'avons vu plus haut, tu as gardé ma parole. La parole du Seigneur. Et là, c'est la parole de ma patience. Eh bien, il nous faut en particulier considérer ce que le psaume 110 nous dit à cet égard. Lorsque, prophétiquement, le Seigneur est vu comme homme glorifié dans le ciel, comment Dieu l'a-t-il accueilli ? Il l'a accueilli par ses paroles. L'Éternel a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite. » Jusqu'à ce que je mette tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. Eh bien, le Seigneur encore attend la réalisation de cette parole que Dieu lui a adressée dans toute la satisfaction qu'il a éprouvée quant à l'œuvre accomplie par son Fils bien-aimé. Le Seigneur attend pour régner et que ses ennemis soient mis pour marchepied de ses pieds par Dieu lui-même. Et dans tous les temps, disons-le, la foi a toujours attendu le moment de Dieu. C'est une grâce. Lorsque cette patience nous est accordée, malgré tous les orages que nous pouvons rencontrer, d'attendre la délivrance sûre de notre Dieu. Eh bien, Philadelphie, comme son Seigneur, comme le Seigneur lui-même, a attendu que se réalisent les promesses divines. D'ailleurs, la foi est déjà récompensée par la jouissance anticipée de ce que sera la gloire de Christ avec tous les siens. Alors, tu as gardé la parole de ma patience, tu as attendu avec moi, nous lisons l'Hébreu 11, la patience de la foi tient une place saillante. Un Abraham, par exemple, attendait la cité qui a des fondements bien avant nous, et nous qui sommes plus près de la réalisation d'une telle part, combien notre foi devrait être exercée pour attendre le moment où le Seigneur vient enlever son Église. Alors si d'un côté l'heure de l'épreuve va venir sur la terre habitée tout entière, nous voyons, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre, une expression caractéristique de ce livre de l'Apocalypse. Il y a ceux qui habitent la terre et sur la terre et ceux qui appartiennent au ciel. Eh bien, ici, ceux qui habitent sur la terre, il n'y a qu'un sort qui les attend. C'est le jugement solennel qui va commencer par fondre sur la chrétienté apostate. Là où la bénédiction a été la plus manifestée, eh bien, c'est là que commenceront les jugements. Et le Seigneur, en annonçant sa venue, Eh bien, présente à cette assemblée la seule exhortation qui lui est nécessaire, qui nous est nécessaire à nous aussi, qui sommes beaucoup plus près encore du retour du Seigneur que Philadelphie ne l'a été lorsque elle est entrée dans l'histoire sans qu'on sache comment, a dit quelqu'un. Alors, que lui est-il dit ? Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Voilà l'exhortation. Tiens ferme ce que tu as. Pour tenir ferme, il s'agit de savoir ce que nous avons. Si cela en vaut la peine, eh bien oui, cela en vaut la peine. Seulement, il ne faudrait pas que nous nous contentions d'être à côté d'immenses trésors sans les exploiter. Et nous revenons toujours à cette pensée. Sondons les Écritures, sondons tout ce que le Seigneur a mis à notre portée et qui est inclus dans cette très belle expression de Paul à Timothée, garde le bon dépôt par l'Esprit Saint qui habite en nous. Timothée, une génération plus jeune que Paul, garde le bon dépôt. Et il devait le transmettre lui-même à des hommes fidèles. Nous avons 4 générations, certainement, qui sont incluses dans cette expression au début du 2e chapitre, la 2e à Timothée. Nous voyons ce souci de transmettre la vérité fidèlement aux générations qui nous suivent en attendant le retour du Seigneur. Ceci doit nous préoccuper. Nous concernons la génération qui est prête à être enlevée si le Seigneur ne revient pas. Elle doit jusqu'au bout être fidèle quant à la présentation de la vérité, de la parole, de toute la parole et rien que la parole. Et tenir ferme, c'est nous attacher à cette vérité parce que nous en connaissons le centre vivant qui est la personne même du Seigneur. Et en attendant, eh bien, nous gardons par le cœur, pas seulement par notre intelligence spirituelle qui peut éprouver une réelle satisfaction dans le fait de sonder l'Écriture, mais il est nécessaire, et nous avons insisté sur le côté de la vérité morale, que notre cœur soit touché par la vérité et notre conscience transpercée par l'épée de l'Esprit pour qu'un travail durable s'accomplisse par la parole de Dieu. Eh bien, le Seigneur prend soin d'avertir cette assemblée. Il y a une couronne. La couronne n'est pas un but en soi pour courir, pour agir, non. Elle est donnée à titre de récompense. C'est un encouragement du Seigneur pour les vainqueurs, pour ceux qui tiendront ferme, que la grâce nous soit faite de faire partie de cela.
Ils connaîtront que moi, je t'ai aimé. C'est un peu la réponse à ce que nous avons vu tout ce matin. Tu as gardé ma parole. Ils ont montré leur amour. Ils ont montré leur amour pour le Seigneur en gardant sa parole. Et le Seigneur répond, ils connaîtront que moi, je t'ai aimé. C'est comme l'intimité qu'il y a entre le Seigneur et son serviteur. Notre frère a fait allusion à l'apôtre Jean, qui s'était intitulé le disciple que Jésus aimait. La première fois où il se présente, il s'appelle ainsi le disciple que Jésus aimait, c'est quand il est dans le dernier souper, dans le sein du Seigneur, et quand il va poser la question que Pierre lui dit, demande qui c'est. Et cette foi nous montre que Jean jouissait de l'intimité du Seigneur. Réaliser que le Seigneur nous aime, nous le réalisons quand nous réalisons son intimité. La deuxième fois, c'est quand il est au pied de la croix et que le Seigneur lui dit « Voilà ta mère, voilà ton fils », il dit à sa mère. Il semble bien le seul disciple qui se soit trouvé au pied de la croix. Il avait bien au loin ceux de sa connaissance. Il y avait quelques femmes, mais tous l'avaient abandonné. Mais Jean est là, et il est le disciple que Jésus aimait. Étant là au pied de la croix du Seigneur, il nous montre quel est son attachement pour le Seigneur. L'intimité, l'attachement pour le Seigneur. Quand le matin de la résurrection, Il part vers le tombeau en courant avec Pierre. Il arrive le premier au tombeau. Il nous montre son empressement, l'amour pour le Seigneur qui se traduit par l'empressement pour aller vers lui. Et puis, quand il est dans le bateau, le matin, de la pêche infructueuse, quand il y a la nouvelle pêche miraculeuse, et que au lointain, dans le lointain, sur la grève, il y a quelqu'un, une silhouette, il peut dire, c'est le Seigneur. Il a le discernement pour reconnaître le Seigneur. Il est le disciple que Jésus aimait là. Et puis aussi, quand il est plus tard, le Seigneur dit à Pierre, toi suis-moi, il est là derrière, il marche. Et le Seigneur lui dit, mais à Pierre, mais que t'importe, toi suis-moi. Il nous parle alors de celui qui est fidèle, la fidélité pour suivre le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Une fois, il ne parlera pas de lui en disant qu'il est le disciple que Jésus aimait. C'est quand il est ce certain disciple qui connaissait quelqu'un dans la maison du souverain sacrificateur et qu'il a usé de son influence pour faire rentrer Pierre dans la maison. Là, il s'était éloigné. Mais pensons à ces points. Ils connaîtront que moi je t'ai aimé, eh bien cet amour du Seigneur, nous en jouirons dans son intimité. Cet amour du Seigneur, nous le réaliserons dans notre attachement pour lui. Nous le réaliserons dans notre empressement pour lui. Nous le réaliserons aussi, cet amour, la connaissance de l'amour du Seigneur nous donnera le discernement pour le reconnaître. Et nous donnera aussi la fidélité pour le suivre. Tu as gardé la parole de ma patience. Et nous avons lu dans le psaume 110, le Seigneur qui attend. Et il me semble que le terme de cette patience du Seigneur, c'est quand il viendra. Quand il dit « je viens bientôt, je viens tout à l'heure ». Mais ce psaume 110 est cité dans l'Épître aux Hébreux. Et quand on lit la citation du psaume 110 dans l'Épître aux Hébreux, il y a peut-être un secret pour garder la parole de la patience du Seigneur. Épître aux Hébreux, chapitre 2, le psaume est cité dans les versets 6 et 7, et puis au verset 8, « Car en lui assujettissant toute chose, il n'a rien laissé qui ne lui soit assujetti, mais maintenant... » Nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit assujettie, mais nous voyons Jésus, qui a été fait un peu moindre que les anges à cause de la passion de la mort, couronné de gloire et d'honneur, en sorte que par la grâce de Dieu, il goûta la mort pour tout. Nous voyons Jésus, celui qui est maintenant couronné de gloire et d'honneur, celui qui est élevé au-dessus de tous les cieux, mais celui qui a goûté la mort pour tout. Celui dont il nous est dit aussi qu'il convenait pour Dieu que, amenant plusieurs fils à la gloire, il consomma le chef de leur salut par des souffrances. Nous voyons Jésus. Pour garder la parole de sa patience, nos regards, toute notre affection, les regards de notre cœur tournés vers Jésus. Celui qui est maintenant couronné de gloire et d'honneur, mais celui qui a goûté la mort pour tout. Alors quand il dit « Je viens bientôt », il a parlé de son retour à Thyatire. Il a donné une espérance. Il a parlé de son retour à Sardes, mais pour lui dire « Je viens sur toi comme un voleur ». Ici, il va dire à Philadelphie « Je viens bientôt », comme il le répétera à la fin de ce livre. Il lui dit « Voilà ma promesse ». Il y a cette exhortation dont on vient de nous parler, mais il se révèle pleinement, il nous donne une pleine espérance « Je viens bientôt, tout à l'heure, peut-être aujourd'hui ». C'est l'heure de la rencontre, ce n'est pas une espérance comme une étoile brillante qui est un peu lointaine. Ce n'est pas celui qui vient comme un voleur que l'on n'attend pas, mais celui qui nous avertit qu'il vient pour qu'on l'attende.
Sujet de la synagogue de Satan. Concrètement, est-ce que nous pouvons faire une idée de ce que cela peut présenter pour les uns ou les autres d'entre nous? On a dit tout à l'heure des professants qui n'ont pas la vie. Alors nos anciens frères nous disaient c'est un système qui est constitué par succession sur des principes judaïques. Donc, on peut dire les grandes églises traditionnelles constituées avec un clergé, avec un ensemble d'ordonnances, de sacrements, etc. Ne pensons pas que ce ne soit pas un danger, parce que ça pourrait avoir un certain attrait, et on a vu, hélas, le cas se produire. C'est un attrait pour l'homme religieux, pour ce que nous pouvons avoir en nous de caché, n'est-ce pas, quant à la chair religieuse. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi voir, on peut dire, le néo-judaïsme chrétien aujourd'hui, dans ces nombreuses sectes antichrétiennes qui nous entourent? Nous savons bien ceux qui se réclament de Jéhovah, cette nouvelle religion du Nouvel Âge, etc., ce syncrétisme qui envahit la chrétienté. Il faut quand même y penser, même si nous ne sommes pas personnellement sollicités l'un ou l'autre, il y a là quand même un danger. Et la synagogue de Satan est bien là par derrière, et ces sectes antichrétiennes. Puis alors, un de nos frères du siècle dernier aussi disait ceci au sujet de la synagogue de Satan: ceux qui placent les âmes sous des ordonnances semblables à celles des Juifs. Alors bien sûr, dans l'absolu, on l'a dit, ceux qui composent cette synagogue n'ont pas la vie. Mais enfin, là encore, est-ce qu'il n'y a pas une application morale pour nous, de façon à prendre garde dans notre enseignement, à ne pas établir des ordonnances, des règles qui ne seraient pas absolument fondées sur l'écriture, qui seraient liées à notre manière de voir les choses, et qui nous permettent, par exemple, personnellement, d'avoir une vie de piété, de sainteté avec notre Dieu, mais qu'on ne doit pas forcément imposer je ne dois pas imposer à mon frère, à ma sœur, qui fait lui aussi des progrès avec son Seigneur et qui n'en est peut-être pas arrivé au même stade que moi de compréhension. Donc là, il faudra nous supporter les faibles aussi, selon ce que nous voyons dans l'Épître aux Romains. On a parlé tout à l'heure de la faiblesse. Eh bien, nous avons ce chapitre 14 que nous connaissons de l'Épître aux Romains. Or, quant à celui qui est faible en foi, recevez-le. Leur foi était faible quant à la marche pratique. Bon, il manquait d'assurance par manque de connaissances. Alors c'est à nous de les aider, bien sûr. Mais faisons attention de ne pas imposer certaines règles si nous ne pouvons pas vraiment les fonder sur l'Écriture. C'est peut-être une application indirecte de ce verset.
Quant à la synagogue de Satan, c'est simplement une petite anecdote historique. Dans le Jura suisse, au début du siècle passé, et donc au moment du réveil, plusieurs chrétiens sont sortis des églises établies et ont commencé à se réunir. Et c'est quelque chose d'assez étonnant. Ils ont été obligés de partir, souvent sortir de Suisse pour se réunir. Ils passaient à travers la montagne et ils venaient se réunir en France, parce que là ils étaient libres de le faire, et en Suisse, alors qu'il y avait des temples dans les villages, ils n'avaient pas la liberté de le faire. Pour montrer dans cette période, tout à fait au début du réveil, quelle était l'opposition qu'il y avait contre ces croyants qui, en fait, sortaient d'un système. Et en sortant de ce système, en fait, ceux qui étaient dans le système se sentaient jugés et il y avait de l'opposition. Et ce fait aussi, si nous réalisions un peu ce que c'est que de vivre une vraie vie chrétienne, comme on en a parlé ce matin, une vie ensemble, réalisant vraiment la présence du Seigneur, en réalisant cela, eh bien, cela devient, pour ceux qui ne le réalisent pas, c'est quelque chose qui devient insupportable. Et quelque chose qui juge dans un sens. Ils sentent cela comme un reproche. Et en fait, là, le Seigneur vient dire au Philadelphien, il vient lui dire, tu as eu des reproches dans ta vie, mais moi, je t'ai aimé. Mais enfin, ça, c'est un peu ce que le Seigneur dit là. C'est un peu comme un secret qu'il partage avec son enfant, son racheté. Moi, je t'ai aimé. Et ensuite, peut-être qu'on peut commencer à parler sur le vainqueur. Celui qui vaincra, alors je le ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il y a là un contraste entre la faiblesse qui caractérisait Philadelphie et la colonne qui est là comme quelque chose de puissant, de fort. Mais une colonne aussi, ce n'est pas simplement quelque chose pour soutenir, c'est aussi quelque chose pour décorer. Et dans un temple, si nous visitons des temples, on va regarder les colonnes et on va dire, ça c'était bien pour soutenir le toit, mais on va voir que les colonnes sont sculptées, c'était aussi pour orner le temple. Alors je le ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Il y a un contraste avec la faiblesse qui caractérisait Philadelphie durant sa vie sur la terre, mais celui qui est vainqueur, il sera une colonne en force et en décoration dans le temple de mon Dieu. Et on peut déjà peut-être souligner combien de 4 fois nous trouvons dans ce verset 12 « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ». Alors il y a une colonne dans le temple, il y a le repos pour lui aussi, il ne sortira plus jamais dehors. Il y a écrit sur lui un nom. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Je suppose que la plupart d'entre nous, dans nos Bibles, nous avons mis nos noms. Si je trouve une Bible et que je vois le nom de tel ou tel frère, je sais à qui elle appartient. Sur le vainqueur de Philadelphie, le nom de mon Dieu. Le Seigneur dit, j'écrirai le nom de mon Dieu. Je montrerai à qui tu appartiens. Et j'écrirai sur lui le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu. Ce nom, dont cette nouvelle Jérusalem, nous la trouverons à la fin de l'Apocalypse. Mais il y a sur Philadelphie le nom de cette assemblée du Dieu vivant, cette église qui est tellement chère au cœur de Dieu. Le nom de la cité de mon Dieu, cette église qui est aussi un des points essentiels des conseils de Dieu quant au Seigneur. Et je mettrai aussi sur lui mon nouveau nom. Pas l'ancien nom, pas celui de Messie, mais mon nouveau nom, le nom que Dieu lui a donné, un nom au-dessus de tout nom. Et j'écrirai sur lui le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, mon nouveau nom, une intimité, une relation et aussi une sécurité extraordinaire. Est-ce que cela n'est pas une belle récompense que le Seigneur promet aux vainqueurs?
À propos du verset 10 et de la promesse, je te garderai de l'heure de l'épreuve. Il y a des traductions de la Bible qui disent « je te garderai à l'heure de l'épreuve ». Il y a une grande différence, en fait. Cela a égaré certains, n'est-ce pas ?« Je te garderai à l'heure de l'épreuve », c'était laisser supposer que l'Église pouvait traverser effectivement la tribulation, mais qu'elle serait protégée. Et alors c'est la grande confusion, parce que tous les passages qui s'appliquent aux résidus juifs ont été appliqués à l'Église. Et nous devons être reconnaissants de la traduction que nous avons. C'est une protection qui fait qu'on ne la traverse pas à l'heure de l'épreuve. Et d'ailleurs, cette pensée qu'on rencontre dans divers milieux évangéliques, souvent pieux, dans lesquels vraiment il y a la crainte de Dieu, mais on n'est pas sûr de ne pas traverser la tribulation. Alors quelle est la conséquence? Mais on attend plus le Seigneur, on attend la tribulation. On se dit, il y aura d'abord la tribulation, donc ce n'est pas encore la tribulation, le Seigneur ne vient pas encore. Mais la grâce de Dieu fait que, justement, nous avons des promesses, et pas seulement celles-ci, mais nous aimons le confirmer par d'autres passages. Par exemple, dans la deuxième épître aux Thessaloniciens. C'est important, ça, de pouvoir répondre à des croyants. C'est tellement général d'entendre dire, oh, la prophétie, on ne sait pas, il se passera bien des choses, on sait qu'il y aura une tribulation. Alors on parle des prémillénaristes, il y a toutes sortes d'écoles, n'est-ce pas, qui se font jour. Mais dans 2 Thessaloniciens, où il est question de l'Antichrist, au chapitre 2, il est parlé du Saint-Esprit, celui qui retient, et il est dit, verset 7, « Le mystère d'iniquité opère déjà selon celui qui retient, le Saint-Esprit, le fera jusqu'à ce qu'il soit loin. » Nous savons que le Saint-Esprit partira avec l'Église. Et verset 8, « Et alors sera révélé l'inique que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche. » L'inique, c'est l'Antichrist. Par conséquent, nous pouvons affirmer sur la base de ce verset que nous ne connaîtrons pas, au moins sur la terre, bien sûr, au ciel, nous verrons toutes choses, nous saurons toutes choses, nous ne pourrons pas dire, voilà, cet homme-là, c'est l'Antichrist. Nous ne connaîtrons pas. Par conséquent, l'Église sera enlevée avant la tribulation. Une autre preuve, ce sont les psaumes. Si l'Église traversait la tribulation, il s'en suivrait qu'elle devrait prendre dans sa bouche les paroles des psaumes. « Ô Dieu, si tu voulais punir le méchant !» Est-ce que cela correspond à la vocation de l'Église, au temps de la grâce, au temps où le croyant est là comme l'ambassadeur du Dieu de grâce pour inviter les âmes au salut, y compris les plus endurcis? On voit bien, n'est-ce pas, que les psaumes, s'ils contiennent beaucoup de consolations et de paroles que nous pouvons nous approprier, ne sont pas pour le temps de l'Église. Prophétiquement, ils concernent la période précisément où les Juifs, où le résidu passera par la tribulation. Encore penser à Lot dans Sodome, en très mauvais état, dans un très mauvais lieu, mais injuste, qui tourmentait son âme juste. Eh bien, l'ange qui vient l'arracher de force à Sodome dit « Je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu sois sorti de Sodome. » Et on comprend que le Seigneur, dans le désir de protéger, d'épargner aux siens le jugement qui va tomber, les retirera avant ce moment. Il n'y aura pas de confusion entre les croyants et les incrédules, ceux qui habitent sur la terre, qui sont désignés là. Comme quand Israël était en Égypte et où les plaies s'abattaient sur les Égyptiens et pas sur les enfants d'Israël. Ce ne sera pas comme ça. Alors, puisqu'on a abordé le sujet des vainqueurs, également nous rencontrons autour de nous peut-être des croyants qui diront « Oh, je sais bien que le Seigneur vient, je sais qu'il enlèvera les siens, mais il enlèvera seulement les vainqueurs. » Vous voyez bien dans l'Apocalypse, il est question des vainqueurs, celui qui vaincra. Alors ce sont eux qui seront enlevés. Et qu'est-ce que vous faites alors de ceux qui ne sont pas vainqueurs? Oh, ceux-là, ils restent pour la tribulation. Nous ne trouvons rien de semblable. Il n'est jamais supposé que nous ne pouvons pas être des vainqueurs. Et on voit bien l'absurdité de ce raisonnement. Si aujourd'hui je suis vainqueur, je résiste à la tentation, je tiens ferme. Le Seigneur vient, il m'enlève. Demain, hélas, je fais un faux pas. Je manque, je ne réponds pas à ce qui est attendu de moi. Le Seigneur vient demain, il ne m'enlève pas.
Mais je suis restauré 2 jours après. Alors le Seigneur vient, il m'enlève. On voit dans quel égarement, dans quelle confusion on se plonge en raisonnant ainsi. Nous aimons rappeler cela parce qu'on rencontre autour de nous, et cela figure dans certains écrits qui par ailleurs contiennent de bonnes choses et qui circulent et dans lesquels on a bien cela fermement établi, n'est-ce pas, que voilà, le Seigneur viendra, mais il n'enlèvera que les vainqueurs. Et je pense qu'il est important d'avoir des idées très claires à ce sujet.
Surpris, en voyant la façon dont l'église de Philadelphie est décrite, manifestant visiblement un attachement pour le Seigneur sans faille apparente, on peut être surpris qu'il y ait des vainqueurs, et donc s'il y a des vainqueurs, c'est qu'il y a aussi des personnes qui ne sont pas vainqueurs. On peut être surpris à la lecture. Eh bien, c'est qu'effectivement, il y a aussi des faiblesses dans le témoignage philadelphien qui ne fait pas partie des vainqueurs. Et nous l'avons déjà dit hier, mais nous devons bien préciser que nous ne devons pas limiter ou rendre exclusifs les philadelphiens de ceux qui ont été des descendants directs, n'est-ce pas, à l'époque du mouvement qui a été issu du réveil du siècle dernier. Nous ne pouvons pas en faire le contour de ce qui est... Le Seigneur le sait exactement. Par contre, il y a une deuxième catégorie, c'est les vainqueurs. Alors les vainqueurs, ce sont ceux qui ont été fidèles d'une manière beaucoup plus complète à ce que le Seigneur avait donné. Et le deuxième point sur lequel nous devons veiller aussi, c'est de ne pas brader, de ne pas négliger les traits de Philadelphie, de ne pas en quelque sorte les sous-estimer, les considérer comme des traits que nous ne pouvons pas manifester et qu'en quelque sorte, n'étant pas en mesure de le faire, nous les considérons comme de peu d'importance et comme pas une poursuite à avoir. Nous voyons ce que le Seigneur dit au verset 11, « Tiens ferme ce que tu as ». Voilà ce que nous avons à retenir. Pas simplement des doctrines. Quand nous voyons cette expression au verset 11, visiblement c'est en rapport avec aussi ce que le Seigneur vient de dire, « Je viens bientôt, moi je viens personnellement vous chercher ». Ce n'est pas une doctrine qui nous gardera, c'est la personne du Seigneur. Eh bien, je suis invité à garder, à tenir ferme ce que le Seigneur est pour moi. Et nous devons veiller parce que, effectivement, nous pouvons laisser, par manque de vigilance, nous pouvons laisser certains aspects du Seigneur que nous connaissons et dont nous avons joui, nous pouvons les laisser s'estomper parce que, sous l'effet des circonstances, sous l'effet des difficultés, sous l'effet des épreuves peut-être, sous l'effet de différentes circonstances que nous vivons, nous pouvons peut-être laisser certains aspects du Seigneur que nous avons appris à connaître, les oublier un peu. Eh bien, nous sommes invités à tenir ferme. Et alors, en ce qui concerne la récompense qui est indiquée, il y a quelque chose de particulièrement précieux. C'est que si on la regarde de près, on s'aperçoit que le Seigneur propose 3 noms. Le nom de Dieu, le nom de la cité de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem, et mon nouveau nom. Et ces 3 noms sont en relation avec les 3 dimensions de l'Église, qui ont été particulièrement mises en lumière, on l'a rappelé, dans les vérités mises en lumière au siècle dernier. Le nom de mon Dieu, c'est un nom en rapport avec la sainteté de Dieu, avec les caractères essentiels de Dieu. L'Église a une de ses dimensions, qui est celle de la maison de Dieu, représentant Dieu sur la terre, dans ce caractère de sainteté. Voilà la première dimension qui est représentée. Deuxième dimension, le nom de la cité de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem. Nous savons que dans l'Apocalypse, c'est le nom de l'affection, le nom de l'épouse de Christ. Elle est placée sous ce nom dans les derniers chapitres de ce livre. C'est donc le deuxième côté, l'Église vue sous son caractère affectif, sous son caractère de relation d'affection avec Christ, épouse de Christ, famille. C'est aussi un côté d'affection. L'Église n'est-elle pas pour les croyants une famille, pour celui qui fait habiter en famille ceux qui étaient seuls? N'avons-nous pas trouvé les uns et les autres une famille qui nous est plus proche que nos familles selon la chair? Ne sommes-nous pas souvent plus près de croyants que de personnes selon la chair que nous avons dû quitter par fidélité au Seigneur? Eh bien, voilà donc le deuxième nom. Et le troisième nom, mon nouveau nom, le nom de Christ ressuscité, le nom de Christ dans la gloire. Cela est une allusion, bien sûr, à cette relation vitale que nous avons avec Christ, relation vitale qui est due au fait que nous sommes son corps il est la tête glorifiée. Nous sommes même, un verset de l'Épître aux Corinthiens le montre, nous sommes même le Christ. L'Assemblée, l'Église est même appelée le Christ, hein, dans un verset. C'est donc dire la relation d'intimité, c'est le côté organique, la dimension organique de l'Église. Donc nous trouvons là ces trois côtés qui sont des bénédictions particulières que Philadelphie portera, que les témoins fidèles philadelphiens porteront dans la gloire. Trois côtés liés à ces vérités et à ces relations avec le Seigneur pour lesquelles ils se sont battus, pour lesquelles ils ont lutté, qu'ils ont tenu contre vents et marées. Combien cela est beau de la part, et plein de grâce de la part du Seigneur, de les récompenser sur ce sur quoi, avec le secours de sa grâce, ils ont pu être gardés vigilants et fermes.
À la lecture de cette promesse, on se rend quelque peu compte de la manière dont le cœur du Seigneur a été récréé par le spectacle qui s'est offert à son regard par cette assemblée. Et on a pu dire à ce propos que Philadelphie a été une oasis entre deux déserts. Le désert des formalismes sans vie à Sardes et le désert de l'autosuffisance, de la satisfaction de soi à la Odyssée, qui est prête d'être vomie de la bouche du Seigneur. Et entre ces deux déserts, il y a là une oasis pleine de fraîcheur. Parce que les affections pour le Seigneur ont été conservées dans toute leur pureté. Et le Seigneur apprécie cela par-dessus tout. On pourrait dire que c'était le jardin du Seigneur, selon l'expression du Cantique des Cantiques, à deux fois répété, au chapitre 4 en particulier, lorsque la bien-aimée dit au verset 16, elle appelle même le vent du nord, verset 16, le vent du midi, l'épreuve, tout ce qui peut fondre sur ce jardin, pour que les parfums se répandent dans ce jardin, pour que ces aromates s'exhalent. Et alors cette belle expression, que mon bien-aimé vienne dans son jardin et qu'il mange ses fruits exquis. Les affections pour lui sont là véritablement ranimées. Il y a là un spectacle de toute beauté qui est offert au cœur du Seigneur, une assemblée qui lui est soumise, qui l'aime vraiment. Et c'est tout un ensemble, ce n'est pas qu'un individu. Comme dans le cas du Cantique des Cantiques, au chapitre 7, verset 13, il est dit « À nos portes, il y a tous les fruits exquis, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. » Donc, le Seigneur a éprouvé une intense satisfaction dans ce que Philadelphie a été dans une communion intime avec lui sur la terre, alors qu'il y avait de l'opposition. Et comme on l'a souligné, cette opposition naissait du fait que l'attitude de Philadelphie jugeait ceux qui l'environnaient, les hommes religieux de son temps, qui sont toujours animés de sentiments d'opposition face à cette fidélité qui dérange, pour ainsi dire. Mais le Seigneur se plaît à honorer ceux qui l'honorent. Ceux qui m'honorent, je les honorerai. Dieu fait toujours ainsi. Et comme en toute chose, c'est le Seigneur qui doit avoir la première place dans nos cœurs.
Ça, dans l'Ancien Testament, pour nous montrer combien le Seigneur se plaît au milieu de ceux qui le craignent. Dans le livre de Malachie, alors que tout est en ruine, le Seigneur a fait des reproches amers à son peuple, et ce peuple qui pouvait dire « En quoi nous as-tu aimé ?» Ce peuple qui offrait sur l'autel des bêtes boiteuses. Mais alors, combien c'était réjouissant de voir au chapitre 3e et au verset 16, il a dit, alors, ceux qui craignent l'Éternel ont parlé l'un à l'autre. Et l'Éternel a été attentif et entendu, et un livre de souvenirs a été écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et pour ceux qui pensent à son nom. Pour ceux qui pensent à son nom, le nom du Seigneur. Alors le Seigneur peut dire, ils seront à moi mon trésor particulier, dit l'Éternel au jour que je ferai. Et je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. Voilà donc le plaisir que l'Éternel prend parmi ceux qui craignent son nom. Je voudrais revenir un peu en arrière en disant que dans les prophètes, il est dit que le jugement est l'œuvre étrange de Dieu, son travail inaccoutumé. On sait que Dieu ne se plaît pas dans le jugement. Et c'est en rapport avec l'heure de l'épreuve, l'heure de l'épreuve. Et le Seigneur, quand il était sur la terre, dans Luc 4, à Nazareth, dans la synagogue, il s'arrête juste au moment où il doit parler de cette heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière. Dans Isaïe 61, le passage qui est cité en note dans ce chapitre 4 de Luc, Isaïe 61, il est parlé de jour de la vengeance de notre Dieu. Mais le Seigneur, de quoi parle-t-il? De l'an agréable du Seigneur. L'heure de l'épreuve, court temps, qui est cette épreuve qui va s'exercer sur la terre par le jugement que nous voyons dans l'Apocalypse, en rapport et en regard avec le règne millénaire qui va s'établir et dont le prophète nous parle et dont l'Apocalypse nous parle en particulier. Mais le Seigneur s'est arrêté juste puisque ce n'était pas encore l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière. Cette heure, comme notre frère l'a fait remarquer, notre frère Quéclin, arrivera donc après l'enlèvement de l'Église. Et n'avons-nous pas, dans le chapitre 6, en prenant le verset premier du chapitre 4, l'assurance que cette heure de l'épreuve fondra sur la terre après l'enlèvement de tous les saints, puisque dans le chapitre 6, quand le cinquième sceau s'ouvre, quand le Seigneur rompt le cinquième sceau, eh bien, il y a les âmes qui sont sous l'autel. Ont-elles le langage chrétien? Pas du tout. Juste à quand ne venges-tu pas notre sang? Alors que nous devons même prier pour nos ennemis. C'est le Seigneur qui nous enseigne à cela. Priez pour vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Jusque à quand ne venges-tu pas notre sang? Alors le premier verset du chapitre 4, après ces choses, je vis. Après quelle chose? Après le déroulement du chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse que nous méditons ensemble.
Le nom de mon Dieu. Lorsque le Seigneur est apparu à ses disciples le premier jour de la résurrection, nous connaissons bien ce passage de l'Évangile selon Jean dans le chapitre 20. Le Seigneur est là au milieu des siens. Et le message qu'il fait porter à Marie, souvent rappelé dans le verset 17, « Je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. » C'est le nom de cette relation qui a commencé avec les disciples et puis qui s'est étendue alors à l'assemblée tout entière. Hébreux 2, dans le verset 11e, Hébreux 2, verset 11, « Car est celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous d'un. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, disant, j'annoncerai ton nom à mes frères au milieu de l'assemblée, je te chanterai tes louanges. On a été occupé ce matin de toutes ces vérités merveilleuses qui concernent le témoignage aujourd'hui, de tout ce précieux dépôt qui nous aura été confié, que nous transmettons, que nous sommes chargés de transmettre de génération en génération. Et nous voyons que le titre que porte cette Église, c'est la manière de le réaliser. Lorsque, dans le dernier chapitre de l'Épître aux Hébreux, l'apôtre commence ce chapitre en disant, dans Hébreux 13, le premier verset, « Que l'amour fraternel demeure. » Et nous voyons dans les Épîtres de Pierre que cet amour fraternel est lié à l'amour. Ce sont les vertus qui se lient les unes aux autres. Dans le dernier chapitre de l'Épître de Jean, dans 1 Jean 5, nous voyons de fait ce double test du Seigneur dans cette Église de l'Apocalypse. Le premier test, c'est que Nos frères en ont longuement parlé ce matin dans Jean 14, c'est d'avoir la parole, de garder sa parole, c'est le premier test que le Seigneur fait sur l'Assemblée. Le deuxième test, c'est celui que nous avons ici dans 1 Jean 5, verset 2. « Par ceci, nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, c'est quand nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements, que nous aimons les enfants de Dieu. » Donc nous voyons actuellement dans quelles circonstances nous sommes placés dans les assemblées, et le Seigneur vient ici, par cet épître tellement à propos, faire ce double test dans chacun de nos cœurs. Voyons que nous sommes encouragés et fortifiés par la parole à cultiver cette relation chrétienne, cet amour fraternel qui doit nous unir les uns aux autres dans la crainte du Seigneur, dans la vérité, afin que le Seigneur puisse regarder vers nous et regarder dans nos cœurs si nous portons réellement ces caractères philadelphiens.
Cette expression « sujet du vainqueur, je le ferai une colonne dans le temple de mon Dieu ». Une colonne est un symbole de force. Et c'est remarquable, dans cette assemblée où on a conscience de sa faiblesse, c'est une faiblesse avouée et reconnue, on peut parler de colonne. Cela fait penser, bien sûr, à ce que nous avons dans l'épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 11, où on voit qu'on est fortifié en toute force selon la puissance de sa gloire. Et puis aussi, où il est question d'être fortifié dans le Christ Jésus. Et cette expression, je le ferai une colonne, bien sûr, c'est une récompense pour plus tard dans la gloire, mais on voit combien cela est loin de l'établissement d'un clergé, de l'établissement de ceux qui pourraient être considérés comme des colonnes, comme on le voit dans l'Épître aux Galates. L'Épître aux Galates, il y a cette expression, il y avait ces apôtres, il y avait ces frères, Jacques, Céphas et Jean, qui étaient considérés comme étant des colonnes. Alors bien sûr, cela doit quand même nous interpeller chacun. Est-ce que nous désirons faire l'acquis de la charge que le Seigneur nous a confiée dans notre faiblesse? Ce n'est pas à quelques-uns que le Seigneur adresse cette promesse qui est en même temps une exhortation. C'est dans un sens à nous tous, puisque le vainqueur à Philadelphie, c'est celui qui aura répondu au caractère philadelphien. Une force qui soutient pour être de la part de Dieu dans nos assemblées des éléments qui s'appuient sur le Seigneur, qui sont humbles mais qui désirent le servir, et tout en étant humbles, être de ceux à qui on peut faire confiance. Et je rappellerai, puisque c'est toujours précieux d'avoir le langage des types, que nous avons dans le premier livre des Rois, au chapitre 7, les deux colonnes du temple de Salomon. Bon, c'est bien connu, mais ces deux colonnes, au verset 21, s'appelaient la première Jacquin, et il établira, il fortifiera, et c'est Christ lui-même qui est placé devant nous ici, celui qui va bientôt établir son règne, ce règne lié à son apparition, comme on l'a remarqué tout à l'heure, sa venue en gloire, et nous serons avec lui, cela nous encourage. Et il y a aussi aujourd'hui déjà ce royaume de Dieu que Paul présentait et auquel nous appartenons moralement. C'est un royaume de Dieu qui n'est pas manger et boire, mais justice et paix et joie dans l'Esprit Saint. Que cela aussi nous caractérise. Et puis, il y a cette deuxième colonne du chapitre 7 du premier livre des Rois, c'était Boaz. Boaz, en lui est la force. Alors, c'est en Christ qu'est la force dans tous les temps. Voilà le message que le Seigneur vient nous dire. Appuyons-nous sur lui dans tous les temps jusqu'à sa venue. Il est notre force et la force des assemblées au milieu desquels il se tient.
Toutes les récompenses, sauf peut-être à Smyrne, il y a quelque chose que l'on a peut-être déjà remarqué les autres années, c'est que le Seigneur s'occupe lui-même du vainqueur. À Smyrne, il lui avait dit « Je te donnerai la couronne de vie, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie, et celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. » C'était ce qu'il dit à Smyrne. Mais dans les autres, il dit « Je ferai ceci, je ». Et ici, il ne dit pas « Celui qui vaincra sera une colonne », mais « Je le ferai une colonne ». Celui qui vaincra, il n'est pas dit « Il aura écrit sur lui le nom de mon Dieu ». Non, « J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu ». Et quand nous pensons un peu au vainqueur, là, dans Philadelphie, pendant combien de temps ce nom sera-t-il écrit sur celui qui vaincra ? Pendant l'éternité. Et on pourra lire sur le vainqueur le nom de mon Dieu, le nom de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu et mon nouveau nom. Un témoignage éternel écrit par le Seigneur sur celui qui est vainqueur. Un peu, on pense un peu à ce qu'il y a dans l'épître aux Éphésiens quant à tous les croyants. Il est dit que Dieu, dans l'Éphésiens 2, quand il est dit que, afin qu'il montra, Éphésiens 2, verset 7, afin qu'il montra dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce dans sa bonté envers nous dans le Christ Jésus. Dieu va montrer les immenses richesses de sa grâce. Ici, sur le fidèle de celui qui est vainqueur à Philadelphie, il va écrire le nom de son Dieu, le nom de mon Dieu, celui qu'il a, que le Seigneur a révélé. La manifestation, ce qu'il a pleinement révélé, le nom du Seigneur Jésus, celui dont on a dit tout à l'heure, « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Le témoignage de la pleine révélation de Dieu en Christ. Le nom de la Nouvelle Jérusalem qui descend auprès de mon Dieu. Le témoignage de la perfection de l'Assemblée de Dieu, telle que Dieu l'a désiré. Et mon nouveau nom, éternellement sur celui qui vaincra, le témoignage de celui qui est vainqueur, le nom de celui qui est vainqueur, qui est mort et qui est ressuscité pour l'éternité.
Pensez, nous arrivons à l'expiration du temps. Dans chapitre 22 et verset 4, il est dit « Ses esclaves le serviront ». Et ils verront sa face et son nom sera sur leur front. Il paraît qu'il était courant dans l'Antiquité que l'esclave porte sur son front le nom du maître, tatoué ou inscrit d'une manière quelconque. Eh bien, ce sera le privilège du croyant éternellement de montrer à qui il appartenait, le nom de son Seigneur. Et ici, c'est ce qui nous est dit, n'est-ce pas J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Et bien que nous puissions aujourd'hui aussi, moralement, montrer à qui nous appartenons, qui nous servons. Ce soit là notre témoignage. J'ai un maître. Si je ne fais pas comme vous, comme le monde, c'est parce que je suis soumis à quelqu'un, à un maître. J'ai un Seigneur et voilà ce qu'il me conduit à faire. Je suis dès maintenant, je n'attends pas ce moment, la manifestation, mais maintenant, je suis son serviteur, son esclave, volontaire et heureux. Une pensée à propos de la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Si elle descend du ciel, c'est qu'elle se trouvait dans le ciel, c'est qu'elle a donc un caractère céleste. Et c'est le contraste que l'on a avec la fin du verset 10, où il est parlé de ceux qui habitent sur la terre, et dont il sera question tout au long de l'Apocalypse. Les jugements tombent où ? Sur la terre, donc sur ceux qui habitent sur la terre. Et les croyants sont ceux qui habitent dans le ciel. C'est leur lieu, la vocation céleste de l'Église. Et l'Église descendra, nous la voyons alors au chapitre 21e, elle descend majestueusement, elle était là dans le lieu qui est le sien.
qui est aujourd'hui le nôtre. Même si nous n'y sommes pas de fait, nous en sommes bourgeois, nous en sommes citoyens. Et c'est bien précieux à penser cela. Nous sommes des étrangers sur la terre. Pourquoi ? Parce que notre patrie n'est pas ici, qu'elle est là-haut. Nous sommes des gens du ciel, en séjour sur la terre. Et quand nous y aurons été effectivement reçus, quand l'Église aura été recueillie, et c'est ce qui nous est montré à partir du chapitre 4, on la voit dans le ciel, l'Église. Eh bien, ici, il est dit, voilà, là, la promesse est que, descendant sur la terre, elle montre son origine céleste et son caractère divin. Et elle proclame là ce qu'elle est par rapport à la terre. Tous les principes sont déjà ceux du ciel pour l'Église. Nous avons à vivre des principes du ciel, à vivre comme des gens du ciel, à vivre comme ces bourgeois de la cité céleste.
Nous allons terminer, c'était seulement deux courts passages de l'Écriture en relation avec ce que notre frère a dit, la colonne qui soutenait le temple de Salomon. Chacun, il établira, il affermira, et puis Boaz, en lui est la force. Un passage dans le livre des Juges, au livre des Juges, chapitre 6, quand l'ange apparaît à Gédéon, il réalise toute sa faiblesse, toute son insuffisance. Au verset 15 du chapitre 6, Gédéon dit « Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël ? Voici, mon millier est le plus pauvre en Manassé, et moi je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Et l'Éternel lui dit « Moi, je serai avec toi, et tu frapperas Madian comme un seul homme. » Et en lui apparaissant, au verset 12, l'ange lui avait dit « L'Éternel est avec toi, fort et vaillant homme. » Une force qu'il n'y avait pas en lui-même, mais que le Seigneur lui donnait. Un second passage dans le premier livre de Samuel. Premier livre de Samuel au chapitre 9. Lorsque Samuel est envoyé pour oindre Saül pour roi sur Israël. Au milieu du verset 20, nous lisons « Vers qui est tourné tout le désir d'Israël ?» N'est-ce pas vers toi et vers toute la maison de ton père ? Et Saül répondit et dit, ne suis-je pas benjaminite, de la plus petite des tribus d'Israël ? Et ma famille n'était pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin ? Et au verset 23, et Samuel dit au cuisinier, donne la portion que je t'ai donnée, dont je t'ai dit, serre-la par-devers toi. Et le cuisinier leva l'épaule et ce qui était dessus, l'expression de la force qui vient de Dieu.